Merci à vous d'écouter Europe 1, il est 18h.
À Dunkerque et dans la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, un confinement sera désormais adapté le week-end, dès ce week-end.
Même cause, même punition, comme Nice, Dunkerque va à son tour devoir se confiner le week-end, annonce il y a quelques instants du ministre de la Santé, Olivier Véran.
La situation est grave, mais pas encore tout à fait désespérée. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, écarte un reconfinement national, mais on vient de le voir avec Dunkerque, certaines agglomérations, certains départements n'échapperont peut-être pas à un nouveau tour de vis.
Un changement de ton de l'exécutif qui mérite une explication, Jean-Rémy Baudeau, dès le début de ce journal.
La campagne de vaccination débute demain chez les généralistes. On ne va pas dire que ça se bouscule au portillon, mais plus de la moitié d'entre eux ont quand même réservé des doses et des rendez-vous.
Émotion toujours très forte en Essonne après la mort de deux adolescents de 14 ans dans deux bagarres différentes. Six jeunes devraient être mis en examen ce soir après la mort de la collégienne à Saint-Chéron.
La SNCF plonge dans le rouge. L'entreprise a perdu 3 milliards d'euros l'an dernier. Rien ne va plus, même pour le TGV. Mais la compagnie a un plan pour redresser la barre.
Tempête en Corée du Nord après la fuite d'un ressortissant qui est parvenu à rejoindre la Corée du Sud à la nage. 6 heures dans l'eau a déjoué la surveillance des militaires nord-coréen. Et puis la Bourse de Paris a terminé en légère hausse, plus 0,31% à 5 797 points.
Bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Isabelle.
Après une très belle journée, c'est quoi? C'est le retour des petites pluies demain?
Oui, mais alors vous avez bien fait d'insister sur petite parce que c'est une sorte de crachin que nous aurons sur le nord-ouest demain. Ça va aller. Partout ailleurs, la journée s'annonce une nouvelle fois printanière avec une légère baisse des températures. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est l'actualité de ce début de soirée. Dunkerque va donc devoir passer en mode confinement le week-end.
Et oui, Olivier Véran l'a annoncé il y a un peu plus d'une demi-heure. Alors du côté des élus du Dunkerquois, on ne se faisait pas beaucoup d'illusions, mais il va falloir quand même encaisser la nouvelle. Lionel Gougelot, on fait le point avec vous sur les mesures qui viennent d'être annoncées par le ministre de la Santé.
Oui, effectivement, Isabelle a commencé donc effectivement par cette mesure de confinement le week-end qui prendra effet dès ce vendredi soir prochain. Un confinement que le maire de Dunkerque espérait encore éviter hier en appelant à une grande campagne de sensibilisation sur les gestes barrières, sur le mode zéro rassemblement, zéro regroupement. Mais la situation du système hospitalier est telle ici à Dunkerque que le ministre décide donc ici aussi de frapper fort. 30 personnes sont accueillies, il faut le savoir, chaque jour aux urgences du centre hospitalier de Dunkerque. Confinement local donc pour enrayer une épidémie dans laquelle le variant anglais constitue ici 70% des contaminations. Et pour compléter cette mesure de confinement, eh bien Olivier Véran s'engage aussi sur un renfort des doses de vaccination.
À l'instar de ce que nous avons fait avec Nice, nous allons renforcer très fortement les dotations de vaccins en vue de protéger davantage encore les plus vulnérables de ce territoire, puisqu'il y aura 16 700 doses de vaccins supplémentaires qui viendront renforcer la campagne de vaccination au niveau du territoire. Pour part, il s'agit de redéploiement à l'intérieur de la région et pour autre part, il s'agit d'une dotation nationale supplémentaire.
À tout cela s'ajoutent des mesures de limitation de fréquentation dans les commerces, une jauge de 15 mètres carrés par client, le passage également des centres commerciaux de plus de 5000 mètres carrés en click and collect, autant d'obligations pour limiter bien évidemment le brassage de la population.
Eh bien merci Lionel Gougelot, vous étiez en direct donc de Dunkerque, l'exécutif a donc réagi très vite, il faut dire que le gouvernement surveille l'accélération du virus de très très près.
Et on rappelle qu'il y a eu un conseil de défense sanitaire ce matin, il s'agissait bien sûr de faire le point sur l'épidémie. Et Jean-Rémy Baudeau, eh bien, une dizaine de départements inquiètent particulièrement l'exécutif.
Oui, des zones plus ou moins larges où les autorités s'inquiètent du taux d'incidence, des niveaux d'hospitalisation. Au-delà de la seule question de Dunkerque, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a listé.
Il y a la région Hauts-de-France, la région Île-de-France, la région Grand Est et la région PACA.
Voilà, dans ces régions, le gouvernement travaille à des réponses ciblées, locales et efficaces, dit-il. Voilà la nouvelle méthode. Des confinements locaux, Nice et Dunkerque comme étalons. On se prépare à faire basculer d'autres départements, confie néanmoins un important conseiller. Au sommet de l'État, on veut jouer à fond la carte du local, sans que pour l'instant on soit d'ailleurs vraiment sûr que le confinement week-end est la solution efficace. Mais il faut tout faire pour éviter un confinement.
Si nous considérions qu'il fallait aujourd'hui un confinement, nous aurions décidé d'un confinement. Tous nos efforts doivent se poursuivre pour éviter d'avoir à décider d'un nouveau confinement national, sans évidemment certitude que nous y parviendrons.
Voilà, éviter un confinement national et Total. Pour l'heure, en coulisses, on comprend que l'exécutif veut en fait surtout gagner du temps, laisser aux Français aussi la possibilité de profiter un peu de leurs vacances. On est dans un moment de vérité, me confie un ministre. La seule certitude, malgré les demandes de certains élus, notamment en Bretagne, c'est que le ton a changé et qu'il est désormais beaucoup plus grave et que l'heure n'est pas au relâchement.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Confinement le week-end ou pas, la clé des champs se trouve plus que jamais dans la campagne de vaccination.
Et à partir de demain, ce sera au tour des généralistes d'entrer en campagne. Un sur deux s'est déjà porté volontaire pour vacciner. Ils ont commencé à caler leur rendez-vous à Neugal.
Oui, et ils commencent à organiser des rendez-vous groupés par demi-journée, car le vaccin AstraZeneca est conditionné par flacon multidose qu'il faut utiliser rapidement. Au total, 2 millions de Français, les 50-64 ans présentant des facteurs de risque, sont concernés par cette vaccination en ville. La campagne va démarrer tout doucement, car les médecins n'auront à disposition cette semaine qu'un seul flacon chacun, de quoi proposer 10 injections seulement. Mais point positif pour le docteur Patrick Bouet, le président du Conseil de l'Ordre des médecins. Le ministère de la Santé a communiqué des données rassurantes concernant les effets secondaires du vaccin.
Nous ne sommes pas réellement inquiets puisque les éléments scientifiques nous confirment dans le fait que ces effets secondaires ne sont finalement pas plus fréquents que ce qui était attendu. Et les médecins sont dans un processus d'explication. Mais vous savez, aujourd'hui, 54% de la population souhaite se faire vacciner. Les patients qui sont en attente ou en recherche de vaccination les utilisent et les utiliseront.
Et les interrogations concernent maintenant la montée en puissance du dispositif et la livraison des prochaines doses de vaccins AstraZeneca. Si l'on en croit les derniers chiffres de la Direction générale de la Santé, plus d'un million de doses devraient être livrées dans la semaine qui vient. Et fin mars, nous devrions en avoir reçu 6,5 millions au total.
Précision signée Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Merci beaucoup Anne. Du côté de nos voisins européens, certains commencent à relâcher un peu la pression après le Royaume-Uni. La Suisse envisage à son tour de desserrer les trains.
Le gouvernement helvète annonce la réouverture des magasins, des musées et des installations sportives en extérieur à partir du 1er mars. Et puis c'est tout, si tout va bien et si la couverture vaccinale augmente, d'autres assouplissements viendront à partir du 22 mars. Il sera possible par exemple d'aller sur la terrasse d'un restaurant.
Europe 1, 18h07, l'Essonne toujours sous le choc hein, après la mort de deux adolescents au cours de deux bagarres.
Ils avaient tous les deux 14 ans, un jeune garçon à Boussy-Saint-Antoine hier soir et une collégienne avant-hier à Saint-Chéron. Et dans cette affaire, Gladys Laffitte, six adolescents devraient être mis en examen ce soir.
Oui, six mineurs originaires de Dourdan présentés à un juge d'instruction. Le parquet a demandé à ce que l'auteur du coup mortel, un jeune homme de 16 ans, soit placé en détention provisoire. Il a avoué en garde à vue. Il est déjà connu de la justice pour deux infractions, mais sans lien avec des faits de violence. Cinq autres jeunes de 14 et 15 ans sont aussi mis en cause pour violence aggravée. La procureure de la République souhaite qu'il soit placé sous contrôle judiciaire, avec notamment l'interdiction de paraître en Île-de-France.
Et alors, en ce qui concerne la bagarre qui s'est déroulée cette fois à Boussy-Saint-Antoine, Gladys, est-ce qu'on en sait plus sur les personnes impliquées ?
Oui, il y a 7 personnes en garde à vue depuis hier soir, dont l'auteur des coups de couteau. En tout cas, il s'est présenté comme tel devant les policiers. Il s'est rendu de lui-même au commissariat hier soir. Il a 15 ans. Il est déjà connu pour port d'armes blanches et dit regretter son geste. 6 autres jeunes de 17 ans seraient impliqués. Eux aussi sont interrogés par les enquêteurs. 2 sont connus de la police pour détention d'armes blanches et vol. Et les deux victimes, l'adolescent de 14 ans décédé et celui de 13 ans blessé, seraient originaires de Quincy sous Sénart. C'est la piste du règlement de compte avec la commune voisine d'Épinay sous Sénart qui est privilégiée. Des images existent de cette bagarre, de vidéoprotection, mais aussi une vidéo de témoins qui viendront aider les enquêteurs à établir les responsabilités de chacun. On en saura plus dans quelques instants puisque la procureure de la République d'Evry doit s'exprimer.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Merci.
Europe 1. Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal, les comptes de la SNCF dans le rouge.
Et puis 6 heures de nage pour échapper à l'un des régimes les plus répressifs et dangereux du monde.
18h10, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre sur Europe 1 et la SNCF a présenté ses résultats. On s'y attendait un peu, ils ne sont pas très bons.
L'entreprise a perdu 3 milliards d'euros l'an dernier, la crise sanitaire est passée par là. Pas ou peu de déplacements et beaucoup de télétravail, tout ça évidemment pèse sur les comptes. Mais Élise Dangean, il y a peut-être un motif d'espoir malgré tout, c'est que ça aurait pu être pire.
Oui, clairement, le groupe a limité la casse et il s'en félicite. Il peut dire merci à la diversification de ses activités. Car si le chiffre d'affaires de SNCF Voyageurs a fortement reculé de 28%, tiré vers le bas par des TGV qui ont perdu en moyenne la moitié de leur fréquentation habituelle, le groupe voit sa filiale logistique Géodis faire plus 4,5% de chiffre d'affaires. Il y a donc un phénomène de compensation, mais ça ne fait pas tout. Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, le dit lui-même.
Alors, on a fait ce qu'il faut pour, on a fait très attention, on a eu un plan d'économie assez massif, de 2,5 milliards d'euros d'économie qui fait que ça a compensé l'effet du Covid à peu près pour moitié. C'est encourageant, ça veut dire surtout qu'on est capable de réagir, on est prêt à rebondir. Quand la crise sera terminée, je suis sûr qu'on pourra repartir à fond pour retrouver tous les clients que nous avons perdus à cause de la crise.
Le groupe table désormais sur une reprise d'activité progressive à partir de l'automne avec un plein effet en 2022. Et pour inciter ses clients à revenir dans ses trains, il va notamment proposer à l'été une refonte tarifaire avec des prix plus bas et plus lisibles.
Précision d'Élise Dangean du service Éco d'Europe 1, toujours au chapitre des résultats. Accor annonce lui aussi des pertes importantes pour l'an dernier.
Oui, près de 2 milliards d'euros de pertes. Le groupe hôtelier qui possède des marques comme Ibis, Sofitel ou encore Mercure a vu son activité s'effondrer de 60%. La crise sanitaire a obligé un certain nombre de ses établissements à fermer ou à tourner au ralenti.
Et on en vient à cette histoire assez incroyable. En Corée du Nord, un homme est parvenu à quitter le pays à la nage, et ce, malgré la surveillance militaire.
Il a passé 6 heures dans l'eau. Objectif, quitter le nord pour rejoindre le sud. Tout cela au nez et à la barbe des autorités nord-coréennes, mais aussi sud-coréennes, Mathieu Bock.
Oui, il a managé pendant 6 heures avec combinaison de plongée et palme dans les eaux de la mer du Japon qui varie entre 5 et 10 degrés en ce moment. Il avait même enfilé une veste matelassée sous sa combinaison et grâce au courant favorable, il a donc défié tous les systèmes de surveillance nord-coréens mais aussi sud-coréens, vous l'avez dit. Il a déclenché des alarmes anti-intrusion plusieurs fois et même apparu sur les écrans de vidéosurveillance, mais les militaires sud-coréens n'ont pas réussi à le localiser précisément. Après 3 heures de recherche, les soldats l'ont finalement retrouvé, endormi, épuisé par temps d'efforts. L'homme, un civil âgé d'une vingtaine d'années, avait en réalité réussi à s'engouffrer dans une canalisation d'évacuation d'eau qui passe sous les barbelés qui doivent en théorie empêcher toute entrée sur le territoire sud-coréen. Face aux militaires, il a expliqué qu'il venait de faire défection et qu'il voulait trouver refuge en Corée du Sud. À Séoul, cette évasion a créé une immense polémique. Les soldats sont accusés de ne pas avoir respecté les procédures, mais le système de surveillance et de protection obsolète est également pointé du doigt. Le ministre de la Défense en personne a dû reconnaître lors d'une audition parlementaire que les systèmes de surveillance étaient dépassés et fonctionnaient mal.
Voilà, c'est digne d'un roman ou d'un film d'espionnage. Incroyable histoire et incroyable récit signé Mathieu Bock.
Le rugby France-Écosse aura bien lieu.
Et oui, décision du comité d'organisation du tournoi Destination. L'équipe de France, dans sa version remaniée, a repris l'entraînement collectif. Aucun nouveau cas de Covid n'a été enregistré ces dernières 24 heures. Il me reste quelques secondes pour vous dire qu'il y a du football Nîmes-Lorient ce soir à 19h. C'est un match en retard de la 21e journée de Ligue 1. Et puis la suite et la fin des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Atalanta Bergame, Real Madrid et Borussia Mönchengladbach, Manchester City. Coup d'envoi de ces deux rencontres à 21h.
Merci beaucoup. C'était le journal de Christophe Lamarre que l'on retrouve à 18h30 pour le rappel des titres de l'info. Anissa Haddadi, la pluie est de retour demain, à l'ouest en tout cas.
Oui, sur le nord-ouest précisément Isabelle, la Bretagne, les Pays de la Loire et le Cotentin sont concernés par ce ciel qui sera un petit peu plus gris demain, avec des brouillards en début de journée et puis des pluies fines. Alors ce sont des petites pluies, ce qu'on a communément l'habitude d'appeler le crachin en Normandie par exemple. Donc voilà,
en Bretagne
demain,
aussi, on dit le crachin
en Bretagne
breton.
Aussi, voilà. Donc ça va ressembler à ça pour vous demain. Au bord de la Méditerranée, la journée commence avec des nuages bas, des brumes matinales qui viendront voiler le soleil de temps en temps. Et puis dans l'après-midi, le temps restera couvert sur les Cévennes et le soleil apparaîtra au bord de la Méditerranée. Alors la très légère perturbation qui va toucher le nord-ouest demain va effectivement s'étendre dans l'après-midi sur les Hauts-de-France et les Pays de la Loire. Mais rassurez-vous, rien de très inquiétant. Dans l'ensemble, le soleil brille encore généreusement sur les trois quarts du pays. Avec des températures qui sont en toute petite baisse, on aura 2 degrés à Strasbourg, 4 à Nancy, Gap, 6 à Bastia, 10 à Paris, c'est la maximale pour demain matin. Et puis au meilleur de la journée, 11 à 20 degrés. 11 pour Saint-Brieuc, 13 au Havre, 15 à Lille, 17 à Paris et à Nice, 19 à Lyon et Belfort et 20 la maximale pour Manosque.
Merci Anissa, vous revenez tout à l'heure avec encore de bonnes nouvelles, s'il vous plaît. Merci.
Europe 1, Isabelle Millet.